Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 6, chapitre 12. Luther sur la confession, la vraie absolution, l'antéchrist, on se rallie à Luther, satire, Ulrich de Hutten, Lucas Cranach, le carnaval à Wittenberg, Stupitz intimidé, travaux de Luther, humilité de Luther, progrès de la réforme. Si les légats de Rome échouaient auprès des puissants du monde, les agents inférieurs de la papauté parvenaient à porter le trouble parmi les petits. La milice de Rome avait entendu le commandement de son chef. Des prêtres fanatiques se servaient de la bulle pour épouvanter les consciences et des ecclésiastiques honnêtes, mais peu éclairés, regardaient comme un devoir sacré d'agir conformément aux instructions du pape. C'était dans le confessionnal que Luther avait commencé la lutte contre Rome. Ce fut dans le confessionnal que Rome engagea la bataille contre les adhérents du réformateur. Bafouée à la face de la nation, la bulle devint une puissance dans ses tribunaux solitaires. « Avez-vous lu les écrits de Luther ?» demandent les confesseurs. « Les possédez-vous ? Les regardez-vous comme vrais ou comme hérétiques ? Et si le pénitent hésite à prononcer l'anathème, le prêtre lui refuse l'absolution. Plusieurs consciences sont troublées. Il y a une grande agitation parmi le peuple. Cette manœuvre habile va ramener sous le joug du pape des populations déjà gagnées à l'Évangile. Rome se félicite d'avoir élevé dans le XIIIe siècle ce tribunal destiné à asservir aux prêtres les consciences libres des chrétiens. Tant qu'il demeure debout, son règne n'est pas fini. Luther a pris ces choses, seul pour déjouer cette manœuvre, que fera-t-il ? La parole, une parole prononcée hautement, courageusement, voilà son arme. La parole ira chercher ses consciences alarmées, ses âmes effrayées et les fortifiera. Il fallait donner une impulsion puissante. La voix de Luther se fit entendre. Il s'adressa aux pénitents avec une courageuse fierté, un noble dédain de toutes les considérations secondaires. « Quand on vous demande si vous approuvez ou non mes livres, leur dit-il, répondez, vous êtes un confesseur et non un inquisiteur ou un geôlier. Mon devoir est de confesser ce que ma conscience me porte à dire. Le vôtre n'est pas de sonder et de découvrir les secrets de mon cœur. Donnez-moi l'absolution et disputez ensuite avec Luther, avec le pape et avec qui il vous plaira, mais ne faites pas du sacrement de la pénitence une querelle et un combat. » Et si le confesseur ne veut pas céder, alors, continue Luther, je me passerai plutôt de son absolution. Soyez sans inquiétude. Si l'homme ne vous absout pas, Dieu vous absoudra. Réjouissez-vous de ce que vous êtes absous de Dieu même et présentez-vous sans crainte au sacrement de l'autel. Le prêtre rendra compte au jugement dernier de l'absolution qu'il vous aura refusée. Ils peuvent bien nous refuser le sacrement, mais ils ne peuvent pas nous priver de la force et de la grâce que Dieu y a attachées. Ce n'est ni dans leur volonté ni dans leur pouvoir, mais dans notre foi que Dieu a placé le salut. Laissez là sacrement, autel, église, prêtre, la parole de Dieu condamnée dans la bulle est plus que toutes ces choses. L'âme peut se passer du sacrement, mais elle ne peut vivre sans la parole. Christ, le véritable évêque, se chargera de vous nourrir spirituellement. » Ainsi la voix de Luther pénétrait dans les familles et dans les consciences alarmées pour leur communiquer le courage et la foi. Mais ce n'était pas assez pour lui de se défendre. Il sentait qu'il devait attaquer et porter coup après coup. Un théologien romain, Ambroise Catharin, avait écrit contre lui. « Je remuerai la bile de cette bête italienne, » dit Luther. Il tint parole. Dans sa réponse, il prouva par les révélations de Daniel et de saint Jean, par les épîtres de saint Paul, de saint Pierre et de saint Jude, que le règne de l'Antéchrist, prédit et décrit dans la Bible, était la papauté. « Je sais pour certain, dit-il en terminant, que notre Seigneur Jésus-Christ vit et règne. Fort de cette assurance, je ne craindrai pas plusieurs milliers de papes. Que Dieu vous visite enfin, selon sa puissance infinie, et fasse luire le jour de l'avènement glorieux de son Fils, dans lequel il détruira le méchant, et que tout le peuple dise « Amen ». Et tout le peuple disait « Amen ». Un saint effroi s'emparait des âmes. C'était l'Antéchrist qu'on voyait assis sur le trône pontifical. Cette idée nouvelle, qui empruntait une grande force des descriptions des prophètes, lancée par Luther au milieu de son siècle, porta à Rome le coup le plus terrible. La foi à la parole divine remplaçait celle que l'Église avait seule obtenue jusqu'alors, et la puissance du pape, longtemps l'objet des adorations du peuple, était devenue celui de sa haine et de sa terreur. L'Allemagne répondait à la bulle du pape en entourant Luther de ses acclamations. La peste était dans Wittenberg, et cependant on voyait chaque jour arriver de nouveaux étudiants, et 400 à 600 disciples étaient assis habituellement dans les salles académiques au pied de Luther et de Mélenchon. L'église du couvent et l'église de la ville étaient trop petites pour la foule, avides des paroles du réformateur. Le prieur des Augustins tremblait de voir ces deux temples s'écrouler sous le poids des auditeurs. Mais ce mouvement des esprits n'était pas renfermé dans les murs de Wittenberg. Il parcourait l'Allemagne. Des princes, des seigneurs, des savants écrivaient de tous côtés à Luther des lettres pleines de consolation et de foi. Le docteur en montra plus de 30 au chapelain. Le margrave de Brandebourg arriva un jour à Wittenberg avec plusieurs autres princes pour visiter Luther. « Ils ont voulu voir l'homme, » dit celui-ci. En effet, tous voulaient voir l'homme dont la parole remuait les peuples et faisait chanceler sur son trône le pontife de l'Occident. L'enthousiasme des amis de Luther augmentait de jour en jour. « Oh, folie inouïe d'Emser !» s'écriait Mélenchon, « qu'il ait osé se mesurer avec notre Hercule, méconnaissant le doigt de Dieu dans les actions de Luther, comme le roi des Égyptiens le méconnut dans celle de Moïse. » Le doux Mélenchon trouvait des paroles puissantes pour exciter ceux qui lui paraissaient faire des pas rétrogrades ou demeurer stationnaires. « Luther s'est levé pour la vérité, » écrivait-il à Jean S., « et pourtant tu gardes le silence ? Il respire encore, il prospère encore, bien que Léon s'indigne et frémisse. Souviens-toi qu'il est impossible que l'impiété romaine donne son approbation à l'Évangile. Comment manquerait-il à ce siècle malheureux des Judas, des Caïphes, des Pilates, des Hérodes ? Arme-toi donc de la puissance de la parole de Dieu contre de tels adversaires. » Tous les écrits de Luther, son oraison dominicale, surtout la nouvelle édition de la théologie allemande, étaient dévorés avec avidité. Il se formait des sociétés de lecture dont les membres se communiquaient ses ouvrages. Des amis les réimprimaient et les faisaient répandre par des colporteurs. On les recommandait du haut des chairs. On voulait une église allemande. On demandait que nul ne fût à l'avenir revêtu de quelque dignité s'il ne pouvait prêcher au peuple en allemand, et que les évêques germains s'opposassent partout à la puissance papale. Il y avait plus, des satires mordantes dirigées contre les principaux ultramontains circulaient dans les provinces de l'Empire. L'opposition réunissait toutes ses forces autour de cette doctrine nouvelle qui lui donnait précisément ce qui lui manquait en la justifiant aux yeux de la religion. La plupart des jurisconsultes, fatigués des empiétements des tribunaux ecclésiastiques, se rattachaient à la réforme. Mais les humanistes, surtout, embrassaient vivement ce parti. Ulrich de Hutten était infatigable. Il écrivait à Luther, aux légats, aux hommes les plus considérés de l'Allemagne. « Je te le dis, et je te le dis encore, ô Marinus, disait-il au légat Caraccioli dans une de ses publications. Les ténèbres dont vous aviez obscurci nos yeux sont dissipées. L'Évangile est prêché, la vérité est annoncée, les niaiseries de Rome sont couvertes de mépris. » Vos ordonnances languissent et meurent, la liberté commence. » Ne se contentant pas de la prose, Hutten recourait aussi au vers. Il publiait ses « Cris sur l'incendie de Luther », en appelant à Jésus-Christ, il le conjurait de consumer du feu de ses regards ceux qui osaient méconnaître sa puissance. Il se mit surtout à écrire en allemand. « Jusqu'à présent, disait-il, j'ai écrit en latin, langue que tous ne pouvaient comprendre. » Mais maintenant, c'est à la patrie que je m'adresse. Ces rimes allemandes ouvraient et faisaient lire au peuple le honteux et volumineux registre des péchés de la cour de Rome. Mais Hutten ne voulait pas s'en tenir à de simples paroles. Il était impatient de faire intervenir son épée dans la lutte. et il pensait que ce serait avec les glaives et les hallebardes de tant de vaillants guerriers dont s'enorgueillissait l'Allemagne que l'on accomplirait la vengeance de Dieu. Luther s'opposa à ces projets insensés. « Je ne veux pas, dit-il, que l'on combatte pour l'Évangile par la violence et par le carnage. Je l'ai écrit à Uthène. » Le célèbre peintre Lucas Cranach publia sous le titre de « Passion de Christ et de l'Antéchrist » des gravures qui représentaient d'un côté la gloire et la magnificence du pape et de l'autre l'humiliation et les souffrances du Rédempteur. Luther en composa les inscriptions. Ces gravures, faites avec beaucoup d'esprit, produisirent un effet inouï. Le peuple se détachait d'une église qui paraissait en tout point s'y opposer à l'esprit de son fondateur. « Cet ouvrage, dit Luther, est excellent pour les laïcs. » Plusieurs employés contre la papauté des armes peu en rapport avec la sainteté de la vie chrétienne. Emser avait répondu à l'ouvrage de Luther intitulé « Au bouc de Leipzig » par un écrit qui avait pour titre « Au taureau de Wittenberg ». Le nom n'était pas mal trouvé. Mais à Magdebourg, on pendit le livre d'Emser à la potence avec cette inscription « Ce livre est digne d'un tel lieu » et l'on plaça une verge à côté pour indiquer la punition que méritait son auteur. À Dublin, on écrivit sous la bulle du pape, pour se moquer de l'impuissance de ses foudres, « Le nid est ici, mais les oiseaux s'en sont envolés ». À Wittenberg, profitant des jours du carnaval, les étudiants revêtirent l'un d'eux d'un costume semblable à celui du pape et le promenèrent dans les rues de la ville avec pompe, mais d'une manière un peu trop folâtre, dit Luther. Arrivés sur la grande place, ils s'approchèrent de la rivière et quelques-uns, feignant une subite attaque, parurent vouloir jeter le pape à l'eau. Mais le pontife, peu désireux de ce bain-là, prit la fuite. Ses cardinaux, ses évêques et ses familiers firent de même, se dispersant dans tous les quartiers de la ville, et les étudiants de les poursuivre par les rues. Il n'y avait pas un coin de Wittenberg où quelque dignitaire romain ne s'enfuit devant les cris et les risées de la population ameutée. L'ennemi de Christ, dit Luther, qui se joue et des rois et de Christ lui-même, mérite bien qu'on se joue ainsi de lui. Erreur selon nous, la vérité est trop belle pour la faire descendre dans la boue. Elle doit combattre sans l'auxiliaire des chansons, des caricatures et des scènes de carnaval. Peut-être sans ces démonstrations populaires, ses succès seront-ils moins apparents, mais ils seront plus purs et par conséquent plus durables. Quoi qu'il en soit, la conduite imprudente et passionnée de la cour de Rome avait excité une antipathie universelle, et cette bulle par laquelle la papauté croyait tout étouffée fut précisément ce qui fit éclater partout la révolte. Cependant, tout n'était pas enivrement et triomphe pour le réformateur. Derrière ce char où le traînait son peuple ému, transporté d'admiration, ne manqua pas de se trouver l'esclave chargé de lui rappeler sa misère. Quelques-uns de ses amis semblaient disposés à rebrousser chemin. Stupitz, qu'il nommait son père, paraissait ébranlé. Le pape l'avait accusé et Stupitz s'était déclaré prêt à se soumettre au jugement de sa sainteté. « Je crains, lui dit Luther, qu'en acceptant le pape pour juge, vous ne paraissiez me rejeter moi et les doctrines que j'ai soutenues. Si Christ vous aime, il vous contraindra à rétracter votre lettre. Christ est condamné, dépouillé, blasphémé. C'est le temps, non de craindre, mais d'élever la voix. C'est pourquoi, tandis que vous m'exhortez à l'humilité, je vous exhorte à la fierté, car vous avez trop d'humilité, de même que moi j'ai trop d'orgueil. On m'appellera orgueilleux, avare, adultère, homicide, antipape, homme coupable de tous les crimes, n'importe, pourvu qu'on ne puisse pas me reprocher d'avoir gardé un silence impie au moment où le Seigneur disait avec douleur « Je regarde à ma droite et il n'y a personne qui me reconnaisse. » Psaume 142. La parole de Jésus-Christ est une parole non de paix, mais d'épée. Si vous ne voulez pas suivre Jésus-Christ, moi je marcherai seul, je m'avancerai seul et j'emporterai la place. Ainsi Luther, comme un général d'armée, embrassait tout le champ de bataille. Et tandis que sa voix poussait dans la mêlée de nouveaux soldats, il découvrait ceux des siens qui paraissaient faibles et les rappelait à la ligne du devoir. Partout, ses exhortations se faisaient entendre, ses lettres se succédaient rapidement. Trois presses étaient sans cesse occupées à multiplier ses écrits. Ses paroles couraient au milieu du peuple, affermissaient dans les confessionnaux les consciences effrayées, Relevez dans les couvents les âmes prêtes à céder et maintenez les droits de la vérité dans les palais des princes. Au milieu des tempêtes qui m'assaillent, écrivait-il à l'électeur, j'espérais toujours trouver une fois la paix, mais je vois maintenant que ce n'était là qu'une pensée d'homme. De jour en jour, l'onde se soulève et déjà l'océan m'entoure tout entier. La tempête se déchaîne avec un effroyable fracas. Je saisis d'une main le glaive des batailles et de l'autre j'édifie les murs de Sion. Ses anciens liens sont rompus. La main qui a lancé contre lui les foudres de l'excommunication les a brisés. « Excommunié par la bulle, dit-il, je suis délié de l'autorité du pape et des lois monastiques. J'embrasse avec joie cette délivrance, mais je ne quitte ni l'habit de l'ordre ni le couvent. » Et cependant, au milieu de toute cette agitation, il ne perd pas de vue les dangers auxquels cette lutte expose son âme. Il sent la nécessité de veiller sur lui-même. « Tu fais bien de prier pour moi, écrivait-il à Pélican, qui demeurait à Bâle. Je ne puis me livrer suffisamment à de saints exercices. La vie m'est une croix. Tu fais bien de m'exhorter à la modestie. J'en sens le besoin, mais je ne suis pas maître de moi-même. Je ne sais quel esprit m'emporte. Je ne veux de mal à personne, mais mes ennemis me pressent avec une telle fureur que je ne prends pas assez garde aux séductions de Satan. Prie donc pour moi. » Ainsi, et le réformateur et la réformation couraient vers le but auquel Dieu les appelait. L'ébranlement se communiquait. Les hommes qui paraissaient devoir être les plus fidèles à la hiérarchie commençaient à s'émouvoir. Ceux-là même, dit Eck assez ingénument, qui tiennent du pape les meilleurs bénéfices et les plus riches canonicats, demeurent muets comme des poissons. Plusieurs d'entre eux exaltent même Luther comme un homme rempli de l'Esprit de Dieu et appellent les défenseurs du pape des sophistes et des flatteurs. L'Église, en apparence pleine de force, soutenue par les trésors, les puissances, les armées du monde, mais en réalité amaigrie, affaiblie, sans amour de Dieu, sans vie chrétienne, sans enthousiasme pour la vérité, se trouvait en présence d'hommes simples, mais courageux, et qui, sachant que Dieu est avec ceux qui combattent pour sa parole, ne doutait point de la victoire. On a vu de tout temps quelle est la puissance d'une idée pour pénétrer les masses, pour soulever les nations et entraîner, s'il le faut, des milliers d'hommes sur le champ de bataille et à la mort. Mais si une idée humaine a une telle force, quel pouvoir n'aura pas une idée descendue du ciel quand Dieu lui ouvre la porte des cœurs? Le monde n'a pas vu souvent à l'œuvre une telle puissance. Il l'a vu cependant au premier jour du christianisme, à ceux de la Réformation, et il le verra en des jours futurs. Des hommes qui dédaignaient les richesses et les grandeurs du monde, qui se contentaient d'une vie de peine et de pauvreté, commençaient à s'émouvoir pour ce qu'il y a de plus saint sur la terre, la doctrine de la foi, de la grâce, tous les éléments religieux entraient en fermentation dans la société ébranlée et le feu de l'enthousiasme portait les âmes à s'élancer avec courage dans cette vie nouvelle, dans cette époque de renouvellement qui venait de s'ouvrir avec tant de grandeur et où la Providence précipitait les peuples.